signe des temps, Marc Wetzmann.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Ce dimanche à 18h30, cet étendard vivant du cinéma français qui est depuis plus de 60 ans, Alain Delon, va recevoir à Cannes une palme d'or pour l'ensemble de sa carrière. Dès l'annonce de la cérémonie, avant même l'ouverture du festival, une pétition émanant apparemment d'un groupe militant féministe américain baptisé Women in Hollywood, et bientôt rejointe par un communiqué des Françaises Oser le féminisme, a demandé l'annulation de l'hommage. Raison invoquée, l'acteur serait raciste, homophobe et misogyne. Bien que pratiquement pas prise au sérieux par les organisateurs du festival, où les débats se concentrent plutôt sur la question des quotas des films réalisés par des femmes, cette pétition demandant la mise au ban de l'un des plus grands acteurs du cinéma français a tout de même réuni à 7 heures plus de 23 000 signatures sur le net. La pétition nous vient des États-Unis, où Woody Allen a récemment vu la sortie de son dernier film « Rainy Day in New York » annulée par Amazon pour cause d'obscénité. Le film montrerait un jeune homme essayant d'en séduire un autre plus âgé. Les mémoires de Woody Allen sont aujourd'hui par ailleurs refusées par tous les éditeurs pour cause cette fois de mauvaise réputation, une mauvaise réputation qui remonte aux accusations jamais prouvées contre Woody Allen d'agression sexuelle contre l'une de ses filles adoptives. En France, pendant ce temps-là, le cinéaste Jean-Claude Brissot, qui avait reçu le Léopard d'Or au Festival de Locarno en 2013 pour son avant-dernier film « La fille de nulle part », vient de mourir, sans que nul ne lui rende hommage à Cannes et sans avoir vu la rétrospective consacrée à son œuvre prévue par la Cinémathèque en janvier 2018, puis annulée sous la pression des féministes, parce que Brissot avait fait l'objet d'une condamnation pour harcèlement sexuel 11 ans plus tôt. Signe des temps s'est déjà fait l'écho de ces débats et il est temps d'y revenir. Un an et demi après la naissance de MeToo, dans la foulée de l'affaire Weinstein, durant cet hiver 2018 qui a vu Laure Murat décréter que les films d'Antonioni n'étaient plus regardables et les féministes se déchirer des deux côtés de l'Atlantique, assiste-t-on à la naissance de ce que l'écrivain Bret Easton Ellis appelle dans son nouveau livre White une culture des bonnes intentions. Les artistes seront-ils désormais sommés d'être des citoyens respectables ? Pour répondre à la question aujourd'hui, Yael Hirsch, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes universitaire et essayiste, fondatrice du magazine d'actualité culturelle Toute la culture, et vous nous parlez en duplex de Cannes, tout comme Lisa Nesselson, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes critique de cinéma américaine à France 24 et à Screen International, et vous avez passé 17 ans à Variety, et vous êtes aussi présidente de l'Académie des Lumières de la presse internationale. Oui. Jean-Marc Parisi, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes écrivain, notamment auteur de Un problème avec la beauté, Delon dans les yeux, chez Fayard, fin août 2018. Et enfin, Céline Pic, bonjour.
Bonjour.
Par vous, je vais commencer. Vous êtes porte-parole de Oser le féminisme. Et donc, cette pétition contre Delon, vous doit beaucoup, en fait, si j'ai bien compris, vous doit beaucoup à Oser le féminisme, contrairement à ce que j'ai dit en commençant.
Alors, au départ, il y a eu un article dans Variety, donc le magazine qui nous avait interrogé là-dessus, et on a bien sûr tenu exactement la même ligne et le même décryptage de l'impunité des agresseurs ou des violeurs dans le domaine de la culture, et on a répondu à leurs questions, et c'est suite à cet article dans Variety qu'il y a eu effectivement de notre côté la préparation d'un communiqué de presse, et puis en parallèle une pétition qui a été lancée aux États-Unis qui a recueilli, je crois aujourd'hui, 25 000 signatures. Notre analyse, nous, elle portait essentiellement sur la teneur sexiste des propos tenus, très récemment, hein, puisque je crois que le directeur du Festival de Cannes disait qu'on pouvait pas reprocher à Alain Delon des propos tenus des années auparavant. On parle en fait de propos tenus le 24 novembre 2018, jour assez important pour nous, puisque c'était la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes, et on était 15 000 dans la rue pour dire que ça suffisait, les femmes frappées par leurs conjoints, les femmes violées, et qu'on voulait que ça cesse et qu'il y ait une prise de conscience de la société. Et ce même jour, effectivement, Alain Delon était à la télé et tenait des propos où il reconnaissait tout simplement, un, être machiste, et puis deux, avoir giflé son ex-femme. Ce qui a été à de nombreuses reprises confirmé par ses enfants. Et donc nous interrogeons sur, je dirais, l'acceptation sociale de ce qui est considéré en fait comme des délits, voire des crimes, quand on parle de viol dans le monde du cinéma, à partir du moment où on parle d'un artiste. C'est-à-dire que le statut d'artiste, la puissance, la notoriété, et le fait qu'il ait des œuvres à son actif qui peuvent être remarquables, permet effectivement d'avoir un sentiment d'impunité totale par rapport à des actes qui sont bien sûr poursuivables par la loi. Et donc je conclurai peut-être sur votre dernière question. Est-ce qu'un artiste doit-il être respectable ? Nous ne demandons pas la respectabilité, loin de là. Nous demandons que ça ne soit pas des criminels, tout simplement.
Donc vous êtes en train de m'expliquer que Alain Delon est un criminel ?
Non, je dis simplement qu'il y a une acceptation. Bah, en fait, effectivement, par exemple, frapper sa femme et lui casser 8 côtes, comme ça a été dit par son fils, et lui fracturer 2 fois le nez, en tout cas, c'est étonnant la façon dont il peut retirer de façon totalement décomplexée. Il assume parfaitement avoir été violent avec sa femme et ses enfants et qu'une gifle n'a jamais tué personne. C'est ce qu'il dit d'ailleurs, c'est ce qu'il souhaite d'ailleurs à Harvey Weinstein, qui, rappelons-le, a été accusé par plus de 80 femmes d'agression sexuelle ou de viol. Ça aussi, on parle de crime. Hein. En France, le viol est un crime puni par la loi, jusqu'à 15 à 20 ans de prison. Et il a répondu ce même jour que Weinstein méritait une bonne claque pour ce qu'il avait fait. Eh ben en fait, non, oui. Non, c'est ça qu'on essaye de rappeler, c'est qu'en fait, un viol, ça ne mérite pas une claque. Et non, il n'est pas normal, dans une société qui se veut combattre les violences sexistes et sexuelles, pouvoir dire haut et fort qu'il n'y a aucun problème avec la violence conjugale.
Je vais revenir quand même sur un point factuel, c'est-à-dire qu'Alain Fabien Delon a démenti les propos qui lui ont été attribués, hein. Il a dit que c'était n'importe quoi. Je cite le communiqué. J'ai juste dit que si mon père avait été violent avec ma mère, c'est qu'elle l'avait beaucoup provoqué. Je n'ai jamais vu mon père taper ma mère.
C'est bien de le rappeler.
Jean-Marc Parisi.
C'est bien de le rappeler parce que tout l'argumentaire tombe.
Bah, en fait, Monsieur Delon a quand même dit oui, des gifles, il y en a eu en fait. Donc il l'a quand même dit lui-même en fait.
Mais oui, il a dit j'en ai reçu aussi.
Tout l'argumentaire tombe.
Jean-Marc Parisi. Bon.
Moi, je veux dire, les bras m'en tombent. Je trouve que c'est une farce atroce. Tout dans la vie de Delon, tout dans la vie et la carrière de Delon, montre qu'il n'est ni raciste, ni sexiste, ni homophobe. Je vais rappeler, parce qu'il faut être dans l'histoire, il faut avoir des références. En 69, à une époque où quand même... l'homophobie est beaucoup plus agressive qu'aujourd'hui. C'est beaucoup plus difficile d'être un homosexuel sous De Gaulle qu'aujourd'hui. Et on doit se défendre d'accusations d'homosexualité dans la presse.
Et c'est puni par la loi.
Absolument. Delon est il y a une grande interview dans l'Observateur, menée par un journaliste fantastique qui est Olivier Todd. Et Todd balance toutes les rumeurs, notamment les rumeurs d'homosexualité. Et que dit Delon à ce moment-là ? Si j'avais eu envie d'avoir des aventures avec des hommes, de quoi serais-je coupable ? En amour, tout est permis. Ça relativise énormément les accusations d'homophobie. Voilà. Je veux dire, quelqu'un qui doit sa carrière à Visconti, quelqu'un qui doit sa carrière au grand agent, anciennement journaliste, Georges Baume, homosexuel notoire et qui ne s'en cachait pas, et il avait raison, tout dans la carrière de Delon montre que tout ça est absolument monté en mayonnaise, en quelque sorte, que c'est un mauvais procès. Les accusations de sexisme, encore une fois, il faut juger sur pièce, il faut regarder une carrière. Je veux dire, qui a sauvé Romy Schneider du suicide au début des années 60? Elle le dit elle-même, c'est Delon. Qui a relancé la carrière de Romy Schneider au moment de la piscine, en imposant Romy Schneider? C'est Delon. Enfin, toutes les femmes qui ont bien connu Delon, je parle de Mireille Darc, je parle de Romy, n'ont jamais accusé Delon de quoi que ce soit. On est là dans quelque chose qui relève du procédé accusatoire, de l'abus, et c'est assez malsain, je trouve.
Yael Hirsch.
Nous, avec Elisa, on est à Cannes, et oui. Je dois dire que on s'est un petit peu parlé là en arrivant, et en fait, pas grand chose est dit dessus, quoi. C'est-à-dire, ce qui se dit, c'est bon, il a eu quelques propos déplacés, mais personne ne, dans la salle de presse où on est absolument révolté on n'a pas croisé en tout cas des gens révoltés qu'on lui remette ce prix. La seule chose, peut-être, certaines critiques seraient peut-être que Thierry Frémaux a pris les choses, peut-être un petit peu à la légère, ou n'a pas reçu cette pétition ou fait cas de cette pétition assez. C'est peu les seuls échos que j'ai vraiment eu depuis les salles de projection pour la presse.
Depuis Cannes, cette pétition n'a pas beaucoup de relief, n'a pas beaucoup d'existence.
Bah, Lisa donnerait peut-être un point de vue américain. Est-ce que
ça oui, ça.
En tant que citoyenne américaine, j'ai presque envie de présenter mes excuses à l'Europe parce que mes concitoyens ont une tendance de lancer des choses où ils sont très mal informés. Et malheureusement, ça arrive en Europe. Pour moi, il n'y a pas question. Il faut absolument honorer la carrière et la beauté d'Alain Delon et le talent d'Alain Delon. Il a sa place comme Woody Allen, comme Clint Eastwood, comme Agnès Varda qui ont reçu un palme d'honneur. Et je trouve que la beauté et le talent d'Alain Delon sont un cadeau pour l'univers. Mm-hmm. Surtout la première moitié l'univers. De sa carrière. Oui, mais il y a des gens qui étaient nés pour être sur l'écran et quelqu'un qui signe une pétition parce qu'on dit qu'il est homophobe ou il dit que c'est OK de frapper des femmes, c'est ridicule s'ils ont vu une prestation de Monsieur Delon comme le guépard ou le samouraï ou Rocco et ses frères ou la piscine. Comment être offensé par l'existence de ce monsieur malgré ce qu'il aurait pu dire dans la vie publique. Donc, c'est peut-être un écart énorme, mais pour moi, c'est pas du tout difficile de séparer dès qu'il n'y a pas un crime comme un meurtre, l'art de l'artiste.
Céline Pic, comment vous réagissez à ce qui vient d'être dit? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas, dans vos déclarations, aux îles féminisme, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas un minimum de nuances?
Je pense que la nuance, elle est là puisqu'on a fait que reprendre des propos qui ont été tenus par Delon lui-même et qu'on cite. Je pense que c'est important de les mettre en exergue.
Dans le communiqué que vous, vous avez cité un extrait, certaines des déclarations ont été démenties à la fois par Delon et surtout par son fils.
Sur la reconnaissance des violences, ouais. Je pense qu'il y a Anthony Delon qui a aussi confirmé qu'il avait de la violence quand il était enfant et que ça a été confirmé. On ne sait pas exactement ce qui se passe aussi entre eux pour qu'il soit revenu sur ses déclarations, et Delon lui-même a déclaré que oui, il mettait des gifles à ses ex-conjointes, ça il l'a dit, et il l'a répété à de nombreuses reprises. Donc, on est en droit de réagir. Je rappellerai quand même que la réaction de la journaliste m'interroge un petit peu, parce qu'en fait, j'ai l'impression, moi en tout cas, que depuis l'affaire Weinstein, les États-Unis ont été vraiment en avance sur la France, sur cette question-là. Ils ont été plutôt en avance, et on voit très bien que, par exemple, dans le cas de Woody Allen, même si toutes les tentatives en justice de reconnaître le viol et l'agression sexuelle sur sa fille ont échoué. Il y a aujourd'hui vraiment une défiance du monde du cinéma aujourd'hui. Il y a un certain nombre d'actrices qui ne souhaitent pas tourner avec Woody Allen. Il n'arrive pas à sortir son film. Et rappelons quand même qu'un viol sur mineur, c'est un crime puni de 20 ans de prison et on ne peut pas faire fi en disant qu'on va séparer l'œuvre de l'artiste, c'est quelque chose qui ne tient pas.
Donc vous pensez qu'il n'y a pas de jugement? Je veux dire, on parle de quoi? Il n'y a pas de jugement là?
Alors, il y a quand même un certain nombre de déclarations. Alors, il y a quand même un certain nombre d'enquêtes qui ont été faites. Hein,
oui, justement, ces enquêtes ont abouti à des non-lieux à chaque fois.
Alors, enquête de la justice et ensuite enquête de journalistes, qui est un peu différent. Je rappellerai quand même que l'affaire MeToo de Weinstein a été déclenchée par l'enquête et les révélations du frère de Dylan Farrow qui a été à la pointe sur la question des violences sexistes et sexuelles dans le monde du cinéma. Et aujourd'hui, on sait que par rapport à la justice, on a une incapacité. Et c'est justement le propos, tout le propos féministe aujourd'hui, c'est d'expliquer pourquoi il y a aussi peu de condamnations par rapport à l'ampleur des chiffres de viol ou de violences conjugales. On parle aujourd'hui en France de 220 000 femmes qui sont battues par leur conjoint.
Vous changez de sujet. Hein,
non, je vais répondre à votre question. Et 94 000 viols. 1% des violeurs sont condamnés en cour d'assises. 1%. Des violeurs. Et on a à peu près le même type de condamnation pour les conjoints violents. On peut s'interroger globalement au niveau de la société comment ça se fait. Il n'y a pas d'autres crimes ni d'autres délits que les violences sexuelles qui soient aussi peu condamnées. Donc l'outrance, elle n'est pas de notre côté. L'outrance, elle est du côté de cette violence-là qui reste aujourd'hui globalement à 99% totalement impunie. Et donc, on s'interroge. Et il y a un certain nombre de mécanismes, effectivement, et en particulier la notoriété et la puissance que peut conférer une position comme Weinstein ou Woody Allen permet effectivement de silencier les victimes, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on arrive avec si peu de condamnations. Et le fait que Woody Allen n'est pas condamné ne veut pas dire
Lisa Nicholson.
Je ne comprends pas pourquoi vous mélangez Harvey Weinstein et Woody Allen. Woody Allen n'a rien fait. Harvey Weinstein a très probablement s'est comporté d'une façon immonde envers des femmes. Il a utilisé son pouvoir. Il y a une seule plainte contre Woody Allen. C'était investigué à fond dans deux États. Ces gens-là, les autorités, sont très, très, très sérieux. Ils n'ont rien trouvé et c'est pas une question de pouvoir ou de notoriété de Woody Allen. Ils s'en fichent si quelqu'un est célèbre. Il n'y a rien pour accuser Woody Allen. De là, c'est devenu un truc que j'ai du mal à me contenir parce que Woody Allen est un des plus brillants créateurs du 20e siècle et 21e. Et le fait que Amazon Studios était tellement lâche de laisser tomber son dernier film, il n'y a que des grands talents comme Javier Bardem, comme Alec Baldwin, comme Jude Law pour dire je tournerai demain avec Woody Allen. Il a écrit des rôles pour des femmes fabuleux depuis 50 ans, mais on focalisait sur une plainte et on dit il faut croire des femmes, you must listen to the women. Mais pourquoi on écouterait Dylan Farrow mais pas Suni Previn, mais pas la femme de Woody Allen depuis 30 ans? La quantité de gens qui disent il y a quelque chose de malsain dans Woody Allen parce que de toute façon il s'est marié avec sa fille. Non, Woody Allen n'est pas marié avec sa fille. Non, Maria Schneider n'était pas violée pendant le tournage de Dernier Tango à Paris. Et ces choses deviennent tellement mélangées, tellement... J'ai du mal à m'exprimer parce que je suis tellement mécontent pour le traitement de Woody Allen.
Jean-Marc Loiseau.
Oui, je crois qu'il faut de la nuance et il faut en revenir aux faits avérés. Et c'est vrai que le contenu de l'œuvre est très important. Et c'est le contenu de l'œuvre qui doit témoigner avant toute chose. C'est vrai que Woody Allen a composé de merveilleux portraits de femmes. C'est vrai que Woody Allen a été l'un des cinéastes les plus fins sur les rapports hommes-femmes. Bon. De la même façon, je veux dire, Delon, sur les homosexuels, l'un de ses plus beaux rôles, c'est le baron de Charlus, dans Un amour de Swann. Bon. Je veux dire que ce qu'on est en train de vivre actuellement, c'est une forme douce, mais de plus en plus prégnante de censure. Je veux dire par là que se serait-il passé si certaines féministes avaient obtenu gain de cause et avaient obtenu que Delon n'obtienne pas une palme d'honneur? Ça ne s'arrêtait plus. C'était après l'interdiction de projection, comme il y a eu pour Brissot, et puis c'était après l'interdiction de vente de ses films, etc. On est dans un procédé, dans une logique de censure de l'art, en quelque sorte, hein, de censure des œuvres, encore une fois. Je suis content que Marlène Schiappa ait précisé que Delon était honoré pour sa carrière d'acteur. C'est ce qui compte. Bon, voilà, faut faire très attention, parce que de ces pseudo-moralismes, on va arriver à de véritables censures. C'est déjà le cas. Et d'ailleurs, une certaine partie du féminisme aujourd'hui n'est qu'une modalité d'une censure générale d'un point de vue de l'art. Ça, c'est clair.
Alors, pour préciser quelques faits concernant Woody Allen, donc il y a eu deux enquêtes de police qui n'ont pas abouti à quoi que ce soit. Ronan Farrow, le journaliste, n'a pas prouvé non plus ces allégations. Ceci étant, Woody Allen a vu son dernier film, je le disais en commençant, déprogrammé par Amazon, qu'il avait produit pour 68 millions de dollars. Officiellement, non pas à cause de ça d'ailleurs, mais parce qu'il y aurait dans le film une scène considérée comme obscène, une scène de séduction d'un vieil homme par un jeune. Je répète ce que j'ai lu dans la presse. Hein. Le film sortira en Europe et en France en septembre, pas aux États-Unis. Et par ailleurs, je l'ai dit aussi en commençant, et vous l'avez dit d'ailleurs, Céline Pic, Woody Allen ne peut pas trouver d'éditeur pour ses mémoires aujourd'hui aux États-Unis. Et cette fois, c'est directement lié aux accusations qui sont portées contre lui et qui n'ont jamais été prouvées. C'est quand même, c'est-à-dire qu'il y a tout de même un individu qui se voit empêché de travailler, jugé coupable, alors que un procès ne s'est pas tenu, des accusations n'ont pas été prouvées. Ça ne s'arrête pas là. Ce mois-ci, l'un des avocats de Harvey Weinstein, Ronald Sullivan, le premier noir nommé à la présidence de l'école de Harvard, a été son mandat n'a pas été reconduit. Il s'est vu exclu de la présidence de Harvard avec son épouse, Stephanie Robinson, pour la seule raison qu'il a intégré l'équipe des avocats de défense de Harvey Weinstein. Et ça s'est fait sous la pression des étudiants qui, là aussi, ont lancé une pétition. les arguments donnés par les étudiantes. Ils ont targué dans leur pétition que la présence de Ronald Sullivan sur le campus est en soi profondément traumatisant pour des victimes de violences sexuelles et que cette présence réactiverait, par le seul fait d'être là, Sullivan réactiverait au quotidien les souvenirs de l'affaire Weinstein dont les étudiantes elles-mêmes n'ont pas été directement victimes par ailleurs. Donc c'est quand même très, très particulier ce qui se passe aux États-Unis, Lisa Nicholson.
Ah bah tout à fait, et c'est désolante. Et j'ai un exemple, j'ai une amie qui est professeure dans une grande université, pas Harvard, mais à Boston, et qui enseigne le cinéma, et il avait montré à son cours une vingtaine d'étudiants La vie d'Adèle. Et ils ont adoré le film, ils l'ont adoré. Une semaine plus tard, il revient, ils disent... Why did you show us a movie made by an asshole? Pourquoi vous nous avez montré un film fait par une méchante qui maltraite? Oui, un connard. Et il a dit, mais vous avez adoré le film il y a 7 jours. Ils ont dit oui, mais on n'était pas au courant de la façon dont il avait traité l'équipe du film. Et nous payons des frais de scolarisation énormes et c'est pas pour subir les œuvres des gens comme ça. Ou la lettre ouverte, la Tribune dans le Monde, qui a été signée par Catherine Deneuve et son autre femme distinguée. Oui, il y avait des gros titres réducteurs dans le monde anglophone qui disaient essentiellement que selon Catherine Deneuve, les hommes peuvent draguer des femmes d'une façon très désagréable et ça va aller. C'était pas ça du tout. Mais tout est réduit à des petites bouts et après tout le monde court avec ça, comme les gens qui sont convaincus que Maria Schneider était violée pendant le tournage du film de Bertolucci, quand en fait, elle a donné une performance incroyable en face de Marlon Brando et un an plus tard en face de Jack Nicholson, deux des hommes le plus viril, le plus fort de l'histoire du cinéma. Et Maria Schneider, à 19 ans, à 20 ans, a fait face à ces messieurs-là. C'est ça qu'il faut mémoriser.
Alors, pour en revenir à Woody Allen et à ce qui se passe aux États-Unis, vous trouvez, Céline Dick, que c'est un... que c'est un progrès, ce que je viens d'expliquer, Ronald Sullivan et tout
moi,
ça.
Moi, je suis un peu choquée, en fait, par les propos la confrère américaine que nous venons d'entendre, parce qu'en fait, on entend beaucoup d'empathie, mais tellement d'empathie pour tous ces hommes injustement accusés, etc. Alors qu'il y a un certain nombre de faits avérés et dénoncés par de nombreuses femmes.
Dans certains cas, oui.
Dans certains cas et dans beaucoup de cas. Je rappelle que Polanski, malgré 40 ans de mandat international contre lui, continue à faire des films, continue à te célébrer. Il a eu sa rétrospective à la Cinémathèque, malgré notre mobilisation. Que Woody Allen continue à faire des films. Moi, j'aimerais quand même qu'on interroge aussi le fait qu'on ait si peu d'empathie, en fait, pour les actrices et pour les femmes et les filles qui ont subi les violences sexistes et sexuelles. Moi, c'est ça qui me donne aujourd'hui la rage, oui. Et mon indignation, oui, elle est du côté des centaines de femmes qui ont dû peut-être faire une croix définitive sur leur carrière d'actrice parce qu'elles ont refusé d'être violées par Weinstein. Moi, j'ai aussi beaucoup d'empathie aussi.
Mais personne ne dit le contraire. Hein.
Oui, mais en fait, on essaye de nous apitoyer sur un procès injuste en censure de génie incompris. Mais en fait, où est la censure, en fait ? Quel est aujourd'hui, en France, celui qui, après MeToo, est aujourd'hui sous les barreaux pour une condamnation pour viol ? On voit bien qu'on a des dysfonctionnements majeurs dans la justice et qu'on ne peut pas simplement dire qu'à partir du moment où il n'y a pas de condamnation judiciaire, on ne peut pas, nous, avoir un regard critique sur la façon dont ça se passe.
Je suis bien d'accord avec vous, Céline Pic, mais le problème, est-ce que vous ne pensez pas que vous affaiblissez considérablement votre cause en mélangeant tout comme vous le faites?
C'est-à-dire que je mélange en fait
parce que vous mélangez d'une part des gens comme Weinstein, dont les actions ont été à peu près prouvées, en tout cas sont avérées, avec des gens comme Woody Allen, sur lequel le dossier est vide. Des gens. Alors,
ça,
Woody
c'est
Allen.
Ce que vous dites, mais
c'est ce que je dis, non, c'est un fait. Attendez, je finis ma phrase. Vous avez d'un côté Woody Allen qui est mis au banc.
La parole de sa fille ne compte pas.
Attendez, ce qui compte quand on met au banc, elle peut compter, mais là on parle de sanctions qui sont prises en l'occurrence directement par la société.
Mais moi je vous ai dit qu'il y avait 99% qui n'aboutissaient pas au procès. Il y a 70% de classement sans suite. Le fait que ça soit un classement sans suite ne veut pas dire aujourd'hui...
Si on ne réfère pas à une décision de justice, on peut tout dire. C'est l'accusation permanente. Même s'ils ne sont pas reconnus coupables, ils sont coupables.
C'est l'accusation. Je dis que 99% des accusations...
C'est
situation.
La limite, c'est la décision de justice.
Alors, je vais être franche avec vous. La justice aujourd'hui est sexiste en France. 70% de classements sans suite par le procureur de justice. Les délais de prescription qui sont trop courts font qu'aujourd'hui, on a très peu de condamnations. Quel est le rapport entre Woody Allen et Weinstein? C'est le même sentiment de sexiste, hein. C'est ce qu'on appelle le patriarcat.
Mais quand savez-vous?
Qui dit simplement qu'en fait, l'homme a besoin d'avoir accès aux femmes. Et s'il a de l'argent, s'il a du pouvoir.
En quoi
c'est le même mécanisme.
Alors attendez, sur Weinstein.
C'est le même mécanisme sexiste.
Je ne vais pas vous contredire. Mais
l'homme aurait des besoins irrépressibles et il serait en mesure de pouvoir les satisfaire quand il le souhaite.
Où avez-vous vu ça dans le cas de Woody Allen?
En fait, le système pédocriminel, c'est-à-dire les violences pédocriminelles, fonctionnent exactement de la même façon que les viols sexistes.
Alors, sur une question précise, vous répondez par une généralité.
Non, je vais répondre très simplement. C'est que je remarque que aujourd'hui, le lieu principal des violences sexuelles est le foyer. D'accord? Donc, il y a un lien entre Alain Delon.
Par une généralité.
Non, Alain Delon qui frappe sa femme ou Woody Allen qui viole sa fille.
Les accusations gratuites.
Les accusations qui ont été faites, en tout cas par sa fille, d'avoir été violée. Et j'ai tendance, effectivement, statistique à l'appui, à plutôt croire celle qui accuse que celui qui se défend. Et je dis simplement que ça fait partie d'un même système qui est le fait que les violences sexistes et sexuelles sont globalement à 99% impunies, que ce soit aux États-Unis ou en France, et que c'est scandaleux, et que oui, effectivement...
Parce que, ce que vous dites, c'est que Woody Allen est coupable parce que les statistiques vous donnent raison.
Non, c'est pas ça que j'ai dit du tout. J'ai dit qu'il faut quand même qu'on comprenne quelle est la raison pour laquelle ces chiffres sont aussi désastreux, pourquoi ces chiffres ne progressent pas à la baisse, pourquoi on a toujours 94 000 enfants violés chaque année. Et c'est ça, j'avoue, qui m'indigne davantage. Et j'essaye de comprendre pourquoi il y a toujours cette impunité à partir du moment où on est dans le huis clos familial. C'est soi-disant parole contre parole. Mais la justice est incapable d'aller jusqu'au bout du processus. Et effectivement, les violeurs ou les agresseurs ou les conjoints violents sont totalement impunis dans notre société.
Madame, s'il faut écouter des
femmes... Lisa Nesselson et ensuite Jean-Marc Parisi.
Oui. S'il faut entendre des femmes et écouter des femmes, pourquoi personne veut écouter Samantha Geimer, la victime de Roman Polanski quand elle avait presque 14 ans, donc un enfant. Il a reconnu le viol. Toute sa famille a dit qu'il a bien fait de fuir les États-Unis. Je vous recommande son autobiographie publiée en 2013 qui s'appelle The Girl et elle dit clairement qu'elle aimerait bien n'avoir jamais dit aux adultes ce qui est arrivé parce que c'est ça qui a pourri sa vie, la réaction des adultes. Elle est très OK avec Roman Polanski. Elle n'a pas un problème avec ça, elle a un problème avec des gens qui qu'il ne faut pas donner des rétrospectives de Roman Polanski, qui ne doit pas tourner, qui ne doit pas voyager. C'est la vie d'une femme qu'on n'écoute pas.
Jean-Marc Parisi.
Oui, je voudrais pointer le danger du discours de Madame Pic sur un autre plan. C'est qu'aujourd'hui, c'est une forme d'effacement de l'histoire et c'est une forme d'effacement de l'héritage culturel. Aujourd'hui, pour des gens de plus de 50 ans, Delon, Woody Allen, de toute façon, on n'arrivera pas à les en dégoûter. Ils ont vécu avec, ils savent qui c'est. Bon. Mais moi, je me pose la question pour des jeunes gens de 20 ou 30 ans, qui n'ont de culture que la culture Internet, je peux vous dire que entendre ce qu'ils entendent sur Delon, entendre ce qu'ils entendent sur Woody Allen, par exemple, va les éloigner de chefs-d'œuvre du cinéma.
Sur Antonioni.
Sur Antonioni, mais sur beaucoup de gens, mais on pourrait parler de Brando, etc. Va les couper de toute une culture dont ils auraient absolument besoin, justement, pour nouer de meilleurs rapports entre les hommes, etc. Bon. Donc, en fait, on est dans le cas où on divise, où on efface et où on censure, en quelque sorte. Parce que si des jeunes de 20 ou 30 ans vous écoutent et vous croient sur ce que vous dites sur Monsieur Delon ou sur Monsieur Allen, c'est catastrophique. Vous savez ce que vous êtes en train de faire? Vous êtes en train de les nier, littéralement. Vous êtes en train de les effacer d'un point de vue culturel. Vous êtes en train de les effacer d'un point de vue de l'histoire de l'art. Vous vous rendez compte de ce que vous dites?
C'est pas une question d'effacer quoi que ce soit ou de dire des choses qui sont factuellement fausses. Les déclarations de la fille de Woody Allen, elles existent et on ne peut pas les effacer non plus, hein.
Mais bien sûr.
Donc, simplement, et pour reprendre par rapport à Polanski, je rappelle quand même qu'effectivement, je suis d'accord avec la journaliste pour dire effectivement que si Roman Polanski n'avait pas fui la justice américaine, le procès aurait eu lieu depuis bien longtemps et cette histoire aurait été classée depuis bien longtemps. Il fait par contre, il y a un mandat international lancé contre lui depuis 40 ans et ça fait 40 ans qu'il refuse de répondre à la justice. Donc si cette affaire, ça fait 40 ans qu'on en parle, ce n'est pas la faute des journalistes, ce n'est pas la faute des féministes, c'est la faute de Roman Polanski qui refuse de se confronter à la justice depuis 40 ans. Et effectivement, droguer et violer une jeune fille de 13 ou 14 ans, je vous rappelle qu'ensuite il y a eu 4 femmes qui ont raconté exactement les mêmes procédés de drogue puis de viol. Oui, c'est, ça interroge dans une société où 94 000 viols en France d'enfants sont commis chaque année, et ça dans une forme d'indifférence générale. Et en fait, j'ai pas envie de dire que je censure qui que ce soit. Roman Polanski continue à faire des films, et non, c'est attendez, ça qui est dramatique en fait. C'est qu'aujourd'hui, il est sous le coup d'un mandat international, mais il ne répond pas à la justice depuis 40 ans, et on voudrait faire croire que c'est nous qui déclarons la guerre des sexes. Mais la guerre des sexes, elle n'est pas du côté des féministes.
Vous croyez vraiment que la
couronne... La guerre des sexes, elle est du côté de ceux qui commettent les violences sexistes et sexuelles, on n'arrive pas à enrayer ce truc. Et moi, ce qu'on veut, c'est un message profondément non violent de stop, ça suffit. Ça suffit le fait qu'une femme soit obligée d'être violée pour accéder à un poste dans le cinéma ou un poste en politique. Ce n'est pas possible. On ne veut plus.
À Cannes, oui, vous voulez intervenir ?
Oui, je pense que évidemment qu'on a aussi beaucoup d'empathie à Cannes pour les femmes qui ont été victimes. Je crois que la question qu'on est en train de se poser et qui est une question importante en fait, et je pense que MeToo permet de se la poser. Elle ne fait pas que imposer de la censure. C'est quel type de représentation on veut. À Cannes, on va pas améliorer la justice. Par contre, on peut poser la question à travers des films ou aussi à travers des gens qu'on met à l'honneur, et là, leur vie privée est-elle un problème ou pas pour les mettre à l'honneur? Et c'est pour ça, probablement, qu'il y a une focalisation aussi forte sur Cannes, et que c'est peut-être pas un hasard si MeToo a commencé à Cannes. Donc, déjà, essayons d'être un petit peu moins terrible et négatif, se poser la question est déjà bien. Et la façon dont on y répond, est probablement insuffisante, avec d'un côté, je pense, une vraie peur de la censure, et pas seulement de la censure au jour le jour, mais c'était dans la tribune dite de Catherine Deneuve, une peur aussi de réviser l'ensemble des films, l'ensemble des représentations qu'on a pu avoir du passé, de les décontextualiser, de les effacer un peu comme ça avait été fait avec Kevin Spacey dans un film, d'effacer. Et donc dans la tribune dite de Catherine Deneuve en janvier 2018, elle disait est-ce qu'on va virer Balthus des musées, Frédéric Bonneau avait aussi le directeur de la Cinémathèque qui fait une tribune en ce sens. Et après l'autre chose, je pense que c'est qu'est-ce qu'on accepte. Est-ce que c'est le fond des œuvres, et dans ce cas-là Woody Allen a des portraits de femmes, enfin Blue Jasmine on l'a tous vu, Maudite Aphrodite, c'est pas, enfin est-ce que on les présente en expliquant aussi ce qu'il peut y avoir autour? Moi, je suis aussi prof par ailleurs, et quand j'ai des étudiants américains dans des facs américaines à Paris ou à Sciences Po, c'est vrai que si je montre Le Dernier Tango à Paris ou Le Portier nu d'Iliana Cavani, qui est un film de femmes, j'explique un peu la situation et je les préviens qu'ils peuvent être choqués. C'est pas idiot, c'est pas, enfin, je me sens pas puritaine de faire ça. Donc, est-ce que c'est le fond? Est-ce que c'est les personnes et leur vie privée? Est-ce que s'il y a eu condamnation de la justice, est-ce qu'à ce moment-là on décide ah non, il y a eu condamnation? Et s'il y a eu condamnation et que la peine a été purgée comme chez Brissot, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'il mérite une nécro parce qu'il a une filmographie importante, quelque chose d'autodidacte, quelque chose qui peut être par ailleurs à côté des crimes qu'il a commis, extrêmement touchants, forts? C'est des questions qu'on va pas résoudre à Cannes. À Cannes, je crois que la façon de résoudre les choses et le côté positif, c'est la réponse, c'est on va aller vers des choses pragmatiques qui vont pouvoir changer l'image des femmes. Oui. Ça n'a pas commencé à Cannes, hein. Time's Up, Women's in Motion, qui est une section de Cannes avec des femmes un peu, enfin charismatiques et belles et merveilleuses qui viennent parler, existe depuis longtemps. Mais n'empêche que de plus en plus, c'est ce qu'on entend dans la bouche des femmes. On l'entendait de la bouche de Julianne Moore qui parlait avec Xavier Dolan, il y a 2 jours, je crois, elle parlait plutôt de parité, d'égalité de salaire, d'égalité de possibilités pour des femmes d'atteindre certaines fonctions. Si on prend le collectif 50-50, c'est pas simplement les fonctions de réalisatrice ou productrice, c'est aussi tout le travail technique qui montre une étude du CNC d'il y a 2 ans, je crois. Il y a 5% des femmes dans les métiers techniques du cinéma et elles sont surreprésentées comme script, comme maquilleuse et comme coiffeuse. Donc il y a tout un mouvement qui se met en place qui est dans la pragmatique. Oui. Peut-être que quelque part, cette pragmatique trop qui répond pas à nos questions fondamentales. Qu'est-ce qu'on donne à des jeunes d'aujourd'hui qui connaissent pas Delon, à voir, à lire, à comprendre? Malgré tout, par cette pragmatique, je crois que les choses avancent parce qu'on va avoir des images de femmes et des... Et pour ce qui est de la censure, j'ai l'impression quand même qu'on n'est pas encore dans une censure totale. Enfin, l'an dernier, j'ai été très surprise, par exemple, à un certain regard, par un film absolument génial qui s'appelle À genoux, les gars, où quand même ça commence par des gamines de 17 ans qui parlent et c'est leur vrai parler étudié par le réalisateur et ça commence, une nana est obligée de faire une fellation au copain de sa sœur. Et elle retourne évidemment la situation, c'est plus malin que ça si ça avait été juste comme ça. Mais on était 6 mois après l'affaire Weinstein, on était en plein Cannes et ça avait sa place. Et je crois qu'aucun d'entre nous journalistes n'a protesté parce que c'était malin, ça posait la question des relations de pouvoir. Ça posait la question de ces ados enfin aussi et ça nous faisait l'impression enfin, je sais, qu'on rentrait dans leur monde et dans leur et face à une réalité aussi, parce qu'il y a quelque chose d'ethnographique et de, enfin d'ethnographique, en tout cas d'études de terrain, c'est leur parler, c'est leur vie de ces jeunes. Mais voilà, donc je pense pas qu'on aille vers une censure massive, j'ai pas l'impression qu'on est dans une censure massive.
Pas en revanche, France en tout cas.
C'est vrai, mais aux États-Unis, c'est vrai qu'on est sensible qu'il y ait 4 femmes en compétition cette année contre une ou deux d'habitude. C'est vrai qu'on est sensible de, ah tiens, le film d'ouverture de la semaine qui est absolument magnifique de Franco Loli, c'est un très joli portrait de femme. Je pense pas qu'il y a 3 ans, j'aurais été sensible qu'un homme fasse un beau portrait de femme, super, mère célibataire. Ok, on est un petit peu plus sensible à ces choses-là. Mais je crois qu'on n'est pas encore dans une censure absolue et on est en train de se poser un débat. Quelle image de la femme, de l'homme, du genre aussi. Parce qu'à force de dire femme, homme, on a envie de propager depuis Cannes, qui serait un peu la forteresse ou le symbole pour notre sphère publique entière. Hein. Je crois qu'il y a un truc, une espèce de caisse de résonance de cette différence, de cette question de la représentation quoi, et de ce qui est grandi dans les esprits.
Mais malheureusement, enfin, aux États-Unis,
la censure, elle a beaucoup plus de... Elle a d'autres sens. Ne pas dire la vérité, raconter des mensonges sur des gens, c'est une certaine façon de la censure. C'est pas simplement une forme d'interdire, c'est de dévoyer des personnes, raconter n'importe quoi sur elles, c'est une forme de censure. Ce que je voudrais dire à ce propos-là, c'est que c'est pas vraiment étonnant non plus que toutes ces accusations naissent dans le milieu du cinéma, qui est un milieu par définition, le cinéma est l'espace de l'érotique. Et l'espace du désir, en fait, en quelque sorte. Et c'est aussi l'espace du fantasme, c'est aussi l'espace de la frustration, et c'est aussi, par définition, l'espace du ressentiment. Quand il y a désir, il y a ressentiment. Dernière chose à propos des luttes féministes. Je veux dire, tout le monde est d'accord. On aimerait tellement être d'accord avec vous. Je veux dire par là que il y a une telle entropie du sens, il y a une telle entropie de la raison aujourd'hui. C'est que des questions aussi fondamentales que la liberté d'être une femme, la liberté d'être un homosexuel, ce qui est crucial, ce qui est important. Ce sont des questions ouvertes, ce sont des questions de liberté, la plupart du temps, et c'est très dommageable. On y répond par des méthodes de tyrannie. Et ça, c'est dommage.
Lisa Nesselson?
Oui, je voulais citer Laurent Geoffrin dans Libé. Il a dit, si on suit les États-Unis, on risque d'ouvrir un liste noire kilométrique. Et sur l'idée de censure, depuis un film sur Michael Jackson et le fait qu'il était probablement vraiment pédophile, était montré à Sundance en janvier, il est devenu quasi impossible de passer les chansons de Michael Jackson à la radio aux États-Unis.
C'est incroyable. C'est
incroyable quand on pense à
ce qu'a été Michael Jackson.
Exactement. Et en plus, donc là, je dis, monsieur, où est-ce que ça s'arrête? Est-ce qu'on dit, ah non, je peux plus écouter les arrangements du grand Quincy Jones parce que c'est lui qui a fait les arrangements de la plupart des grands tubes de Michael Jackson, et où est-ce que ça arrête? Donc, c'est une censure qui est en motion, et ça me fait tellement peur, parce que comme j'ai dit au début, les choses qui commencent aux États-Unis ou en Amérique du Nord ont une fâcheuse tendance d'arriver en Europe éventuellement. Donc, mes excuses d'avance.
Moi, je voudrais réagir sur les œuvres et ce qui a été dit. Moi, je trouve ça très intéressant. Effectivement, le cinéma a une place particulière parce qu'elle offre aussi un système de représentation, et en particulier des représentations de la sexualité, représentation des rapports femmes-hommes. Et aujourd'hui, avec une majorité de cinéastes masculins, c'est aussi une image du désir masculin, et souvent d'un désir assez dominant. Et effectivement, moi, j'estime que au-delà d'effectivement, par exemple, si on prend le cas de Brissot, de la condamnation qu'il a eue pour agression sexuelle et viol, il a continué ensuite à faire des films, et dans cette rétrospective qui était proposée puis annulée par la Cinémathèque, il y avait un film où il réécrivait cette histoire en l'érotisant, en disant que c'était les femmes qui l'avaient cherché, etc. Et donc il y a une réécriture de l'histoire qui va complètement à rebours de la décision judiciaire, où il se fait passer pour une victime, et puis pour les femmes qui ont été effectivement reconnues comme victimes par la justice, comme étant celles qui étaient entreprenantes. Donc c'était aussi cette réécriture de l'histoire, et de voir qu'il y ait davantage d'œuvres féminines dans le cinéma, qu'il y ait davantage de réalisatrices et qu'il y ait des regards qui soient féminins sur la sexualité, ben moi j'aimerais qu'on ait une vision de la sexualité qui soit aussi diverse et que on sorte de cette ce qu'on appelle la culture du viol. Et il ne s'agit pas de censure, il s'agit aussi de pouvoir revoir aujourd'hui des œuvres qui il y a 40 ans n'étaient pas choquantes. Je ferai un parallèle pour finir avec le racisme. Justement. Par exemple, si vous regardez Autant n'emporte le vent aujourd'hui, il y a des relents racistes dans Autant n'emporte le vent. Et ben moi, j'ai envie de dire, en 2019, après MeToo, quand je regarde un film de Brissot, je trouve que c'est profondément sexiste comme cinéma. Et donc, vive les réalisatrices à Cannes, j'aimerais qu'on arrive à la parité, on en est encore loin malgré les quatre.
Je voudrais rectifier les faits. Jean-Claude Brissot n'a pas été condamné pour viol, il a été condamné pour harcèlement sexuel. D'une part, et pour agression sexuelle d'autre part, en 2005 et 2006.
C'est une déqualification, c'est-à-dire que la plainte initiale était en viol, et ensuite, très souvent, le tribunal, pour éviter la cour d'assises, requalifie ça en agression sexuelle. Ça s'appelle une déqualification. On juge les viols aujourd'hui en France comme des simples délits, et des femmes qui sont polytraumatisées suite à un viol voient leur jugement entre deux vols de mobylette et voient leur violeur condamné pour agression sexuelle à 5 mois de prison avec sursis alors qu'elles ont été violées pendant des années. Ça, c'est la réalité aujourd'hui de la justice française.
On va revenir au cinéma, puisque c'est pas une question de censure. On est bien d'accord. Il faut voir les films de Delon et il faut voir les films de Woody Allen.
On n'a jamais demandé de la censure.
Vous êtes bien d'accord.
Il faut aller voir les films de Woody Allen et les films d'Alain Delon et les films de Woody Allen. Moi, personnellement, qui suis impliquée dans la lutte contre les violences pédocriminelles, j'ai aujourd'hui beaucoup de mal à aller voir un film de Woody Allen sans penser à ce qu'est. Laissez-moi finir ma phrase. Oui, personnellement parlant, moi, je suis profondément indignée par le caractère massif des violences pédocriminelles et j'ai du mal aujourd'hui à voir un film de Woody Allen sans voir l'homme qui a créé cette œuvre derrière.
On est bien d'accord, donc, ça veut dire après, que ce genre de fausses accusations...
Woody Allen, il n'est pas censuré et si vous voulez aller acheter des DVD à la FNAC de toute la filmographie de Woody Allen, vous pouvez le faire. Donc l'accusation de censure ne tient pas et vraiment je pense qu'il y a une évolution du cinéma avec un cinéma un peu moins empreint de représentation de la sexualité dominante comme la fameuse scène de la censure,
elle se pose sur un point. C'est qu'à partir du moment où vous signifiez que d'une certaine façon, ceux qui sont sensibles aux violences faites aux femmes ne devraient pas aller voir Woody Allen. C'est ça ce que vous êtes en train de dire, en
fait. Non, c'est mon choix personnel.
Je ne vais pas voir Woody Allen parce que je pense qu'il a réellement
il a réellement violé sa fille il y a 30 ans de ça, c'est tout.
Voilà, je vais devoir arrêter l'émission là. Un dernier mot, il y a mon avis personnel. Vous avez dit quelque chose d'important à propos de la réputation des artistes. Pendant très longtemps, les artistes qui avaient une mauvaise réputation, leurs œuvres étaient effectivement condamnées indépendamment de ce qu'elles étaient. Mais c'était dans une société beaucoup plus bourgeoise et réactionnaire. Aujourd'hui...
Fleur du Mal avait mauvaise réputation.
Tout à fait, oui.
Mais je crois que la richesse du débat avec les dangers qu'on connaît, c'est qu'on est au cœur d'un sujet vraiment important, au cœur d'un sujet qui traite d'image de la femme. Mais encore, j'ai l'impression que parfois on a un peu d'arrière-garde quand on s'imagine femme-homme. Il y a toute une série de penseurs et de personnes d'ailleurs qui n'ont plus envie de se représenter soit comme une femme soit comme un homme. Pour commencer. Par ailleurs, quand on parle du cinéma ici, oui, c'est des films qui vont être vus, mais quand on regarde quand on est en streaming sur YouTube toute la journée, je pense que les jeunes voient. Il y a beaucoup de choses qui sont censurées, pas censurées, avec beaucoup d'autres enjeux. Mais le débat qu'on peut avoir là, il est important parce qu'il peut avoir un impact sur les politiques publiques. 50-50 a eu un impact. Il y a eu des Assises du cinéma en septembre. Il a un impact, tout comme le travail des associations, évidemment. Mais il a un impact qui peut être important. Et on n'a pas fini le débat, mais je crois que le fait même de l'avoir. Qu'est-ce qui est représentable, qu'est-ce qui ne l'est pas, qu'est-ce qui dans une œuvre est recevable ou pas. Et la dernière chose, je crois, qui est importante, c'est que dans la sphère publique, il y a des pouvoirs et contre-pouvoirs. C'est-à-dire, s'il y a un film qui va trop dans un sens sur les représentations, rien n'empêche l'existence d'un autre film avec une toute autre image.
Oui, merci beaucoup. Je vais simplement finir en citant une phrase de Godard citée par Brissot, qui va un peu dans le sens de ce que vous disiez, Jean-Marc Parisi. Le cinéma substitue notre regard, un monde qui s'accorde à nos désirs. Oui. Il y a toutes les ambiguïtés de cette discussion.
Je crois même que c'est une phrase d'André Bazin. I was born with my papa's son wandering out a smoking gun.
Some of you would live through me and light me up and throw away the key. Or just find a place to hide away and hope that I'll just go away. Huh. But I feel alright. I feel alright tonight. I feel alright.
C'était Signe des Temps, une émission de Marc Betzman, assistée de Nathalie Dempreur, avec à la technique Pierrick Monsigny et à la réalisation Véronique Villa. Dans un instant, une histoire particulière. Conquerors and concubines and conjurers from darker times. A betrayal and conspiracy, sacrilege and heresy. Feel alright. I feel alright tonight.